RFI.
Et il est 18h30 ici, à Paris. Nous évoquons l'avenir de la recherche dans le monde ce soir, dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
La recherche qui semble dans l'œil du cyclone Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain multiplie en effet les coupes budgétaires, les licenciements massifs ou encore le blocage de programmes entiers, s'il s'agit de domaines bien précis comme par exemple le genre, la diversité ou encore le changement climatique. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que la recherche est mise à mal. En Argentine ou encore en France, les restrictions budgétaires plombent le secteur. D'où notre question ce soir, est-ce que la recherche est menacée aujourd'hui? Pourquoi est-elle ainsi visée? Quelles conséquences sur le monde de demain et quel levier pour limiter la casse? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir à mes côtés en studio. Michel Dubois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Face à vous, Françoise Combes, bonsoir.
Bonsoir.
Astronome à l'Observatoire de Paris, professeur au Collège de France et présidente de l'Académie des sciences. Notre troisième invité en ligne avec nous, Emmanuel Pérez-Tisserand, bonsoir.
Bonsoir.
Maîtresse de conférence en histoire à l'Université de Toulouse, spécialiste des États-Unis et du Mexique. Et vous êtes l'une des initiatrices d'un mouvement qu'on va évoquer, qui est un mouvement international, mais vous êtes l'une des initiatrices en France de ce mouvement qui s'appelle Stand Up for Science. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Emmanuel Pérez-Tisserand, comment la situation actuelle concernant la recherche se traduit-elle? En quoi est-ce qu'on peut juger aujourd'hui que la situation est alarmante?
Alors, tout d'abord aux États-Unis, hein, qui a effectivement fait réagir et fait organiser ce mouvement de soutien international, de solidarité Stand Up for Science. Effectivement, avec le nouveau gouvernement Trump, on a eu dès les premiers jours du mandat des attaques directes sur les financements de la recherche et la manière dont la recherche pouvait exprimer ses résultats ou les projets qu'elle entreprend, avec l'interdiction d'utiliser certains mots, certaines expressions, sous peine de se voir couper des financements, avec des chercheurs et chercheuses en situation avec des emplois les moins protégés qui sont vus licenciés du jour au lendemain dans la vague en fait des suppressions d'emplois publics fédéraux entrepris par le DOGE, hein, cette sorte d'agence qui vise à l'efficacité gouvernementale, enfin c'est son titre,
qui est dirigé par Elon Musk.
Exactement, et donc on a eu depuis le mois de janvier des attaques énormes sur la recherche et l'université états-unienne qui se traduisent par des chiffres astronomiques de coupures de 800 millions de dollars pour Johns Hopkins, 400 millions aussi pour Columbia, et donc ça c'est en financement fédéraux mais aussi dans d'autres systèmes. Donc effectivement, on a une attaque sans précédent sur l'un des systèmes les plus performants et les plus riches à l'échelle mondiale, qui nous a fait nous soulever en solidarité et en rappelant à quel point l'écosystème, le système de la recherche universitaire est important et un indicateur d'un bon fonctionnement démocratique et d'une société qui réfléchit sur elle-même, qui réfléchit à la réalité de notre monde. Et donc, on voulait aussi à la fois être en solidarité, mais éveiller l'attention de nos concitoyens, concitoyennes sur cet enjeu important.
Et relayer ce mouvement international, Stand Up for Science, il y a eu des manifestations à travers tous les États-Unis le 7 mars, et effectivement en écho au premier constat que vous faisiez concernant l'administration Trump, Emmanuel Pérez-Tisserand, je vais ajouter quelques chiffres, 750 employés qui ont déjà été mis à la porte dans les centres de prévention et de lutte contre les maladies, entre 700 et 1300 agents contraints de partir de la fameuse Food and Drug Administration, qui est chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, et puis le National Institute of Health, c'est NIH, c'est le plus grand bailleur de fonds publics, hein, de la recherche biomédicale au monde, 1200 départs déjà, et j'ajoute enfin une vague de licenciements sans précédent à l'Agence américaine d'observation océanique. Michel Dubois, pourquoi est-ce que Donald Trump, l'administration Trump, s'en prend ainsi à la recherche?
Oui, je pense qu'il y a une offensive assez massive, mais qu'on peut, à mon sens, découper en plusieurs niveaux. Il y a un niveau d'attaque assez attendu sur l'État fédéral. C'est-à-dire, ce qu'on veut, fondamentalement, c'est affaiblir autant que possible l'État fédéral. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur de réglementations qui limitent les activités économiques et industrielles. Et donc, tout ce qui est fait, par exemple, sur l'agence environnementale, c'est là pour faire tomber des réglementations, de la science réglementaire qui va limiter les activités industrielles, par exemple l'industrie fossile ou tout ce qui peut avoir un impact sur l'environnement. Donc ça, c'est attendu. L'autre attaque est attendu, c'est l'attaque, on va dire, idéologique, parce que effectivement, les universités, certaines universités sont perçues comme étant des vecteurs d'idéologie woke, et donc tous ces mots-clés, effectivement, sont centrés sur, fondamentalement, différentes dimensions de ce qu'on pense être le wokisme, et donc tout ce qui relève de l'inclusion, de l'équité, toutes ces valeurs qui sont portées par ce mouvement, et ça, c'est également attendu. Ce qui est moins attendu, et ça me semble peut-être plus fondamental, c'est que ce que fait actuellement l'administration Trump, c'est qu'elle attaque finalement un monopole. Jusqu'à présent, l'université, les organismes de recherche détiennent le monopole du savoir sur la façon de tracer une ligne entre ce qui est un fait et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas. Et ce que fait actuellement l'administration, c'est qu'elle est en train de contester ce monopole. Elle est en train de dire, moi, en tant que politique, je suis capable finalement de vous dire ce qu'est la vérité et ce qui ne l'est pas, ce qui est le fait et ce qui n'est pas un fait. Et on retrouve en fait, de façon assez systémique, en fait, cette logique d'expansion des faits alternatifs qu'on avait déjà vus pendant la première administration. Mais là, on le voit de façon assez organisé, assez orchestré. Chaque jour, finalement, amène une mesure supplémentaire. Et chaque jour, finalement, est là pour affaiblir un peu plus, finalement, ce monopole épistémique, ce monopole classique de production de la connaissance et une sorte d'ingérence politique assez, assez fondamentale.
Elle se traduit comment, cette ingérence politique ?
L'ingérence politique, ça se traduit par le fait de contester aux chercheurs, d'une part, de travailler sur des sujets. Donc, c'est-à-dire, certains sujets deviennent interdits. Ouais. Certains sujets sont considérés comme étant superflus, ce qui est absurde. Il y a quelque chose qui revient de façon récurrente dans le débat américain depuis 10 ans. C'est un exemple. On parle des crevettes qui sont sur des tapis roulants. Quelque chose qui paraît assez étonnant. Ouais. Et c'est une recherche en fait, qui a été portée il y a 10 ans en biologie marine du côté de Charleston. Et pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse aux effets des transformations de l'environnement sur justement les animaux marins, les crevettes, les crabes. Et on essaye de comprendre les effets de la transformation notamment du climat, sur ce qui se passe précisément sous l'eau. Et notamment parce qu'il y a toute une dimension d'aquaculture, il y a toute une industrie de la crevette sur place. Et Trump, Musk, se gaussent en permanence de cet exemple en disant en fait, le NIH finance les chercheurs pour faire du sport aux crevettes. Ce qui est un truc qui revient, une sorte de truc complètement ridicule. Et donc, ça montre quoi ? Ça montre qu'à travers cette stigmatisation de recherche qu'on ne comprend pas, en fait, ce qu'on veut, c'est juste avoir un effet de polarisation de l'opinion contre les chercheurs pour leur dire, en fait, ces gens travaillent sur des choses complètement absurdes, qui ne servent à rien, ce qui n'est pas du tout le cas, mais on est en train d'essayer de délimiter finalement quel est l'espace légitime de la recherche.
Mais parce que ça ne sert pas finalement des intérêts financiers déjà, qui sont quand même un leitmotiv pour Donald Trump, et aussi parce que ça renvoie à des valeurs qui sont contre la guerre idéologique lancée par Donald Trump.
Oui, je pense qu'il y a une autonomie du milieu académique qui est souvent revendiquée. Et donc là, clairement, cette autonomie pose problème du point de vue de l'idéologie qui est portée par Trump. Et puis, par ailleurs, effectivement, il y a un agenda d'invisibilisation d'un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que quand on regarde cette liste de mots-clés, il y a clairement la question des populations vulnérables qu'on ne veut pas voir. Ouais. Il y a la question du racisme qu'on ne veut pas voir. Toutes les formes de trauma, toute l'analyse des traumas qui sont associés à différentes situations également, on ne veut pas les voir. Et donc, il y a un travail véritablement d'invisibilisation et de reconfiguration du paysage de la recherche saisi par cette administration.
Et est-ce qu'on peut déjà évaluer, je vais donner la parole évidemment à Françoise Combes, mais Michel Dubois, votre œil de sociologue, est-ce qu'on peut déjà évaluer les conséquences ?
Les conséquences, on les a sous les yeux en ce moment. Il suffit de regarder ce qui se passe au Texas avec l'épidémie de rougeole. On a quelqu'un qui est actuellement au ministère de la Santé qui propose de résoudre cette épidémie en utilisant de l'huile de foie de morue. Donc effectivement, on va avoir les effets très, très rapidement. On voit aussi venir actuellement des propositions de loi pour faire entrer l'intelligent design, donc le créationnisme, dans les programmes de lycée et pour les jeunes. Donc en fait, on va avoir une variété très rapidement de conséquences. conséquences. Et tout ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est qu'il y a un moment de prise de conscience de l'opinion qui vont sans doute être confrontés à des problèmes de santé, en particulier les populations qui sont les plus vulnérables.
Évidemment, et puis il y a, on va évoquer aussi les leviers et Stand Up for Science, dont Emmanuelle Perez-Tisserand est l'une des initiatrices en France. Peut-être ce mouvement peut répondre à ces coupes et à ces attaques en règle menées par l'administration Trump. Françoise Combes, vous qui êtes professeur au Collège de France, président de l'Académie des sciences, est-ce que on peut faire un parallèle dans cette situation aux États-Unis et ce qu'on observe en France? Parce qu'il y a, alors c'est pas au même niveau évidemment, mais il y a des coupes budgétaires importantes sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est 1,2 milliard d'euros d'économie.
Je ne le mettrai pas du tout au même niveau. Alors là, vraiment pas du tout. Je pense que vraiment les coupes et puis les licenciements qui sont faits actuellement rapidement, même pas 2 mois. Chaque semaine, il y a tout d'un coup des licenciements. Par exemple, vous avez parlé de l'Agence nationale pour l'atmosphère et les océans. Ça, c'est presque 2000 licenciements. 20% des effectifs sont tout d'un coup du jour au lendemain. Et c'est tellement rapide que nous avons eu au téléphone des étudiants qui avaient déjà préparé leurs articles. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils n'avaient même plus accès à leur ordinateur, même plus accès à leur email. Donc, ils ne pouvaient plus. Ils étaient complètement paralysés. Donc ça paraît inhumain, en fait. Ça paraît hallucinant. On a eu des courriers qui s'adressaient même à des seniors en disant « il faut que vous preniez votre retraite, vous avez quelques jours pour faire vos bagages, etc. » C'est vraiment des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Ouais. Ils n'étaient même pas là dans le premier mandat Trump.
Et c'est peut-être que le début. C'est le début du mandat.
C'est le début du mandat, mais il y a des désastres qui sont déjà faits. Hein, parce que, on pense que peut-être il y aura des juges qui... Certains juges font des réactions, quoi. Disent que de toute façon, c'est illégal, tous ces licenciements, etc. Mais ça va prendre du temps. Et d'ici là, il va y avoir des dégâts considérables. Par exemple, ils ont supprimé des milliards et des milliards. Enfin, quand on dit en France, on a supprimé 1 milliard, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est supprimé. Un seul programme d'un NOAA, c'est 5 milliards. Et en fait, on voit bien que si on n'a pas assez de navires, de satellites, etc., pour regarder les océans, on ne pourra pas avoir les quotas de pêche, par exemple, pour prévoir tout ce qu'il faut, ou même les ouragans. On a vu que dans le sud des États-Unis, actuellement, il y a plein d'ouragans. Il faut les prévoir. En France, on prévoit, on fait des alertes. Là, on voit bien qu'il y a des dégâts considérables et qui sont sans doute en partie dus à ça. Tout d'un coup, les gens sont paralysés. Ouais. Et en fait, il faut bien dire que c'est quand même focalisé, toutes les attaques. C'est anti-science, en fait. C'est parce que l'équipe au pouvoir est climato-sceptique quand même, et donc ils ne croient pas au réchauffement climatique. Donc tout ça, c'est des interdits. On n'a pas le droit de travailler là-dessus. Donc il faut faire comme si... Ouais. Hein, le climat, ça n'existe pas, la diversité, la biodiversité, et puis aussi les anti-vax. On a vu que pour la santé, c'est dramatique. On a vu que lorsqu'il y avait un Covid, ce sont les Américains qui ont, par leur dynamisme, par leur budget qui est considérable par rapport au nôtre, ils ont pu faire de l'ARN messager et faire des vaccins en même pas quelques mois, ce que personne n'aurait imaginé. Donc, on voit bien que cette force de travail, ils sont en train de la détruire.
Je vais revenir sur le parallèle avec la France, mais à quel point la recherche mondiale, elle est dépendante, et ça rejoint la question que je posais à Michel Dubois sur les conséquences de cette situation aux États-Unis. À quel point la recherche mondiale, elle est dépendante des États-Unis?
Elle est dépendante complètement parce qu'on a des collaborations avec eux et on travaille avec eux en permanence. Alors, par exemple, pour le climat ou pour l'océan, etc., ce sont des programmes en fait en collaboration qui doivent avoir un continu parce que évidemment ça sert à rien quand on a des vents qui vont de l'Atlantique jusqu'à l'Europe d'en avoir qu'un particulier. Ça s'arrête pas aux frontières, tout ça. Hein, vous avez des perturbations climatiques qui prennent tout le globe, toute la planète. Donc on voit bien qu'il faut une continuité de temps et d'espace. Si on coupe une partie, on voit bien que tout le reste va être pénalisé, en fait.
C'était Dominique Costagliola, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui disait quand on coupe la recherche américaine, on coupe la recherche mondiale.
Ah oui, exactement, parce que c'est eux qui font l'effort de recherche le plus fort.
Ils sont les leaders ?
Ah bien sûr. Ils ont des budgets qui sont 2 à 3 fois plus grands que nous. Alors nous, on le fait, on a quand même beaucoup de ressources. Hein. On a aussi, par exemple, au niveau européen, on a les ERC qui nous permettent d'avoir vraiment des crédits qui sont... tout à fait compétitif. Hein, on a heureusement, grâce à l'Europe, on a des crédits compétitifs. Et donc, tout ça, d'ailleurs, parfois, ils nous l'envient, parce qu'ils n'ont pas autant de crédits sur un programme donné. Et heureusement, on le garde. Mais on a quand même, dans les laboratoires, les universités, on est un petit peu pauvres par rapport à eux. Donc, on se compare avec les plus pauvres universités des États-Unis, en fait.
Et Emmanuelle Perez-Tisserand, alors, Françoise Combes nous dit que c'est sans comparaison, évidemment, la situation en France et aux États-Unis. Alors, je vais être plus précis dans ma question. Pourquoi dans les deux cas, et je peux ajouter l'Argentine, où il y a des coupes budgétaires importantes, pourquoi dans ces cas-là, la recherche est visée ?
Bon, oui, effectivement, les situations ne sont pas encore similaires, mais et on n'est pas à ce stade en France dans un gouvernement autoritaire. Et on mentionne ici le cas de la recherche et de la science, mais dans le cas des États-Unis et aussi dans le cas de l'Argentine, on a des attaques sur d'autres secteurs de la société. Et donc tout ça est à prendre comme un tout. Et c'est vrai que ça a été bien expliqué. Ce qui a été bien expliqué aussi, c'est effectivement les intérêts à la fois économiques et financiers qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de développer l'extractivisme, et ça c'est pas compatible avec un discours qui prend en compte le fait qu'il y a un réchauffement climatique et ça va mettre en danger des populations vulnérables. Il y a effectivement un agenda conservateur dans le cas de l'Argentine comme le cas des États-Unis, et je pense que la raison pour laquelle on veut attirer l'attention, y compris en Europe, c'est que on n'est pas à l'abri de l'arrivée au pouvoir, ou en tout cas de la montée en puissance de mouvements politiques, de personnes politiques qui auraient un agenda similaire, parce que ces manières de faire et ces procédés ils circulent en fait, et évidemment on sait qui est allé voyager et aller voir ce qui s'est passé à l'investiture de Trump et comment on échange des idées sur ce qu'on souhaite faire.
Mais qu'on comprenne bien, la recherche constitue pour que ce soit Javier Milei, le président argentin, Donald Trump, le président américain, ça constitue une menace pour la guerre idéologique qu'il lance.
Ah bah absolument. Bah d'ailleurs, c'est ce que, en fait, on peut reprendre terme à terme un discours qu'a fait le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, en 2021, en expliquant que pour pouvoir déployer le programme conservateur, l'ennemi c'était les universités et qu'il fallait attaquer en règle les universités pour pouvoir déployer ce programme conservateur. Donc c'était déjà annoncé. On le voit aussi dans le projet 2025 qui a été proposé par la Heritage Foundation, qui est une sorte de programme en fait qu'applique Trump et le gouvernement autour de lui. L'idée aussi, c'est que les universités déploient une liberté de pensée, une liberté académique, d'essayer de rechercher et de critiquer et d'essayer d'avancer dans notre compréhension des événements sociaux. Et ça, c'est incompatible avec une version idéologique de l'histoire, de la société, de la supposée méritocratie qui ferait qu'on n'a pas besoin de parler des inégalités socio-ethno-raciales aux États-Unis, parce que, bien sûr, tout est méritocratique. Donc en fait, ça va à l'encontre d'un récit. On voit à quel point Trump, mais comme Milei aussi, et Bolsonaro avant, ne supportent pas en fait la critique et l'opposition, et veulent se débarrasser de tout récit qui ne correspond pas à leur vue. Donc effectivement, il y a une crainte et une opposition au pouvoir d'explication du monde, et de comprendre le monde qu'on trouve dans les universités. Et effectivement, ce qu'on a mentionné avant, c'est-à-dire le fait que globalement, c'est dans les universités qu'on a pu critiquer le premier mandat Trump, qu'on a pu aller à l'encontre de ses intérêts économiques et financiers qui ont soutenu la campagne de Trump depuis le départ.
Avec toutes ces décisions, Michel Dubois, vous nous avez évoqué les conséquences à court terme. Vous avez dit qu'elles sont déjà là au Texas, l'épidémie de rougeole, des choses comme ça. Mais à plus long terme, quand aujourd'hui, il y a clairement des termes, et vous y avez fait référence, qui sont interdits dans les recherches aux États-Unis, climat, pollution, injustice, la référence au genre. Et par exemple, quand on va sur le site de la NIH, il y a ce bandeau, quand on fait une recherche, toute information sur cette page promouvant l'idéologie du genre est extrêmement inexacte et déconnectée de la réalité biologique immuable qu'il y a deux sexes, masculin et féminin. À quoi ressemblera le monde de demain dans un tel contexte ?
Alors, c'est difficile de faire des prévisions. Alors, chaque jour, finalement, apporte un petit peu sa nouveauté. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il va y avoir un effet d'abord d'affaiblissement de la communauté scientifique aux États-Unis. Clairement, on va voir des cerveaux revenir sans doute vers l'Europe. Et donc ça, c'est ça quelque part qu'il faut être capable aujourd'hui d'accueillir. Il faut donner la possibilité à nos collègues de se déplacer et de leur donner les conditions de travail qui soient de bonne qualité. C'est un premier plan. Donc l'affaiblissement de la communauté scientifique américaine, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui me paraît assez évident, c'est qu'en contestant cette idée de l'indépendance des formes d'expertise, on va progressivement alimenter une défiance croissante de l'opinion publique à l'égard de la communauté scientifique, parce que la communauté scientifique va devenir le porte-parole, ou alors va se cantonner à une forme d'autocensure, ne va pas s'exprimer, et ceux qui vont s'exprimer vont être en quelque sorte des porte-parole de l'administration. Et donc on va alimenter une défiance qui n'est pas là. C'est-à-dire que ce qui est quand même paradoxal, on est dans une situation où aux États-Unis, il il y a plutôt une forme d'enthousiasme par rapport aux sciences et aux techniques. Il n'y a pas de défiance de l'opinion par rapport aux sciences. Mais là, pour le coup, on a une administration qui, délibérément, va contribuer à polariser l'opinion par rapport aux sciences et aux techniques et va contribuer à générer mécaniquement une forme de défiance par rapport à la science. Et donc, il y a un travail ici, à la fois, on va dire, de démantèlement de la science en tant que force de travail, et puis il y a un démantèlement également de la réputation, du prestige de la science. Tout ça pour une raison qui me paraît finalement assez simple, qui est on veut tenir, on veut cadrer le débat public, on veut avoir la main sur le débat public, et on ne peut pas, du coup, cadrer ce débat si on ne tient pas les experts. Et les experts, bien sûr, ils sortent du milieu académique, et c'est ça qu'il faut essayer un petit peu de contrer.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Est-ce que la recherche est menacée? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, et on parle évidemment en premier lieu des États-Unis, parce que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les coupes budgétaires, les licenciements massifs, ou encore le blocage de programmes entiers selon les domaines qui sont concernés. Et on a dit tout ce qui est de genre, diversité, changement climatique sont clairement censurés. On a évoqué aussi l'Argentine, où il y a d'importantes coupes budgétaires, et effectivement un peu en deçà, la France, qui est aussi concerné par des restrictions budgétaires à propos de la recherche. Mes trois invités sont Michel Dubois, sociologue et directeur de recherche au CNRS, Françoise Combes, astronome à l'Observatoire de Paris, professeur au Collège de France et présidente de l'Académie des sciences, et Emmanuelle Pérez-Tisserand, maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Toulouse, spécialiste des États-Unis et du Mexique, et l'une des initiatrices du mouvement en France, Stand Up for Science. Ça va nous permettre, dans cette deuxième partie, eh bien, d'évoquer maintenant la réponse possible, les leviers à activer pour limiter la casse concernant la recherche, puisqu'on a à peu près fait le tour de la situation et des conséquences que cette situation porte. Emmanuelle Pérez-Tisserand, quelle peut être la réponse des chercheurs et à quel point ce mouvement, dont vous êtes l'une des initiatrices en France, Stand Up for Science, peut répondre aux inquiétudes?
Alors, ce qu'on a pu constater, et ça, en parlant avec différents collègues, je ne sais pas si c'est la même chose pour vos invités en plateau, mais il y a eu un moment de sidération et une grande difficulté, en fait, à recueillir des opinions et des avis de nos collègues états-uniens sur qui, je pense, il y a eu des effets assez forts des menaces de l'administration Trump, y compris du président lui-même sur son réseau social, qui a menacé, en gros, les universités qui laissaient s'exprimer des voix divergentes et d'opposition répercussions, y compris financières, justement par ce levier de l'argent fédéral. Donc, il y a eu un moment un petit peu difficile. Il y a eu l'organisation par nos jeunes collègues aux États-Unis, un petit groupe de jeunes collègues de ces manifestations Stand Up for Science. Il faut bien dire qu'elles n'ont pas rassemblé du tout autant de personnes que la première marche pour les sciences qui avait eu lieu pendant le premier mandat Trump, qui avait vu des grosses manifestations en faveur de la recherche scientifique, mais aussi pour défendre les droits des femmes, mais aussi pour défendre la question du climat. Et donc, on avait eu des grosses mobilisations en 2017 aux États-Unis. La force est de constater qu'on a eu environ entre 15 et 20 000 personnes pour ces manifestations aux États-Unis le 7 mars. On en a eu autant en France. Donc, on voit bien que l'intimidation a fonctionné. On voit malgré tout qu'il commence à y avoir des frémissements pour essayer de résister. Alors, il y a une grande confiance, finalement, en le fait que comme ces actions sont probablement, en tout cas de la perspective de beaucoup, illégales ou anticonstitutionnelles, il va y avoir des actions de justice qui vont porter leurs fruits. Et donc, il y a une attente par rapport à ça. Et un certain nombre d'universités ont, en fait, en recevant ces informations-là, contacté leurs avocats et tout leur système de défense judiciaire pour essayer de voir comment ils pouvaient agir. Et quand même, on commence à avoir un certain nombre de prises de position publiques et collectives de la part de sociétés savantes, d'associations professionnelles. Moi, en tant qu'historienne, j'ai pu lire celle de l'AHA, donc l'Association des historiens américains, et de l'OAH, Organisation des historiens de l'Amérique, qui dénonce en fait ces attaques et défend la liberté académique, et qui aussi, sur le plan historique, condamne le fait qu'on réécrive l'histoire sur tous ces sites de communication du gouvernement et la publication de différents rapports et fiches, et craint en fait sur la conservation des archives de ce qui est en train de se passer. Il y a aussi une autre tribune de l'association des professeurs d'université. Donc, je sais qu'il y a d'autres mouvements collectifs qui sont progressivement en train de s'organiser dans différents campus. Et donc, je pense que c'est effectivement dans le collectif, et c'était là aussi le sens de notre mobilisation en France, c'était de montrer notre soutien, notre solidarité, de produire des discours sur l'importance de des libertés académiques, de la liberté de recherche, pour donner des forces, en fait, à nos collègues états-uniens, et forcer de constater que ça fonctionne, ça énergise et ça donne des ressources. Donc, je pense que c'est là le premier, enfin, une manière importante d'afficher notre solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues. Bon, peut-être certains vont effectivement choisir d'essayer de trouver d'autres postes, peut-être en Europe, peut-être au Canada. Mais
je pense que
la priorité, c'est vraiment de défendre leur position là-bas, collectivement, et de résister.
La résister par la mobilisation, ça, c'est une chose. Sauver les données, évidemment, vous l'avez dit, parce que c'est un enjeu important. Comment ne pas perdre, face à toutes ces coupes à toutes ces menaces, les données qui sont essentielles et qui commencent à être effacées, évidemment, par les décisions qui sont prises. Et la justice, c'est un point important aussi parce que il y a des directives qui ordonnent le licenciement dans les agences fédérales qui ont été déclarées illégales. Est-ce que ça peut marquer un coup d'arrêt à ces procédures? Et puis un point très important que vous avez soulevé, est-ce que et je me tourne vers vous, Françoise Combes, parce que vous avez signé cette tribune de chercheurs qui est publiée ce mardi dans Le Monde. Vous lancez un appel pour un accueil des chercheurs américains. Est-ce que ça, c'est la mission de l'Europe aujourd'hui?
Oui. On a vraiment demandé à la Commission européenne, et on a fait cette pétition pour le faire, si on ne pouvait pas accueillir des réfugiés scientifiques, en fait, qui venaient là. Et en effet, ce qu'on a été frappé quand même, c'est la sidération qu'il y a eu parmi nos collègues américains. Par exemple, l'Académie nationale américaine, qui n'a pas vraiment beaucoup réagi. Alors, on s'est demandé pourquoi au départ. En fait, c'est parce que, dans certains sens, ils se sentent menacés. C'est-à-dire que l'Académie, elle n'est pas indépendante comme en France, elle est dépendante du gouvernement. Donc, au moindre réaction, elles avaient la menace d'être coupées, licenciées, etc. Donc, on voit qu'ils règnent par la peur. En fait, et c'est pas du tout la situation en France, comme on le disait. En France, on n'a pas un déni de la science, on n'est pas anti-science, par exemple, on ne dit pas des contre-vérités scientifiques. Ici, ce qui est ahurissant, c'est des choses qui sont complètement négatives, c'est complètement anti-science, que ce soit les anti-vax, que ce soit le climato-sceptique. Donc on voit que c'est complètement différent. Et qu'on va essayer donc de faire venir peut-être tous ceux qui... Il y a déjà eu un appel par l'Université de Marseille. Mais là, quand on a discuté avec tous les cabinets des ministères, etc., une action est en train d'être faite, même au niveau français. Et puis on a contacté aussi tous nos collègues académiciens, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc., pour savoir s'ils avaient une intention de le faire. Ils ont l'intention de faire venir des cerveaux. Et par exemple, on a eu la chef de la NASA, qui était co-chair du GIEC, qui est Catherine Calvin, qui a été licenciée. C'est vraiment à très haut niveau. Et donc, tous ces gens-là, on espère qu'ils pourront peut-être venir en Europe.
Avec quel budget?
Et bien justement, il y a, en France, on a des budgets qui s'étaient prévus pour France 2030, par exemple, qui sont en dehors des budgets de la recherche, qui ne seront pas en compétition. Et l'Europe pourrait... on a fait des petits calculs. Dans cette tribune, il y avait un petit calcul qui donne une ordre de grandeur. 5 000, on pouvait faire venir 5 000 réfugiés scientifiques avec un budget qui n'était que de 750 millions d'euros. Pour l'échelle européenne, c'est rien du tout. C'est même pas 1 milliard. Donc, franchement, il y a de quoi. On pourrait. L'ordre de grandeur y est.
Ça peut sauver la recherche? Enfin, ça peut sauver, en tout cas, la recherche des menaces actuelles?
En tout cas, tous ceux qui veulent venir pourraient peut-être venir et qu'on pourrait continuer à travailler parce qu'ils sont complètement arrêtés là-bas. Donc là, je pense que c'est une solution un petit peu de pompier, d'urgence. Mais si on peut aussi attirer des gens qui pourraient fonder des équipes et ensuite s'installer en Europe, ce serait vraiment très... une très bonne chose.
Et on est quoi, ce que vous dites? Je vais citer Romain Huré, président de l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, et qui a dit « Ce retournement historique en faveur de l'Europe est une chance à saisir ». Ben, on va finir avec ce message positif, car la recherche est menacée, on le comprend en vous entendant, mais elle peut être sauvée. Et il y a ces pistes, notamment, d'accueillir ces chercheurs américains en Europe. Merci beaucoup à vous trois. Michel Dubois, sociologue et directeur de recherche au CNRS. Françoise Combes, astronome à l'Observatoire de Paris, professeur au Collège de France, présidente de l'Académie des sciences. Et Emmanuel Perez-Tisserand, maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Toulouse. Merci beaucoup à Florence Ponce, à la préparation de ce débat, Claude Battista, à sa réalisation.
RFI.
Allez, dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et puis juste après, ce sera 30 minutes plus tard. Afrique Soir, la première édition. C'est Bibéré, bonsoir.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir dans 30 minutes,
Sylvie? Eh bien, après le Niger et le Burkina Faso hier, c'est au tour du Mali de claquer la porte de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Et tout cela, en pleine semaine de la Francophonie, les trois pays qui sont membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, civils qui sont dirigés par des juntes militaires jettent donc un nouvel acte de rupture. Le Niger où les droits humains sont bafoués depuis le putsch qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Rappelez-vous, c'était en juillet 2023. C'est un rapport cinglant d'Amnesty International qui a été publié aujourd'hui. Et puis nous irons au Sénégal, à Rosso. C'est à 380 km de Dakar. C'est au bord du fleuve qui sépare les deux pays que sont refoulés, vous l'entendrez, les migrants subsahariens venus de Mauritanie. C'est un reportage de Léa Lisa Westerhoff, notre correspondante au Sénégal.
Eh bien, on vous retrouve dans 30 minutes. Merci beaucoup Sylvie Berruyer. Pour l'heure, dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir.